C'est la chronique américaine et Raphaël, bonne nouvelle pour le Canada parce que les tarifs douaniers américains sur l'aluminium canadien, ben ils ont été retirés.
Ils ont été retirés aujourd'hui de façon franchement impromptue. Tu sais, disons-le très clairement, c'était pas nécessairement évident de savoir pourquoi ils avaient été appliqués en premier lieu il y a quelques semaines. C'est pas vraiment plus clair savoir pourquoi ils ont été retirés aujourd'hui. Il y a une raison officielle qui a été donnée par le bureau là, du représentant américain au commerce. Tu sais, disons-le, très franchement, Patrick, là, on est dans le domaine du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi.
Donald Trump a eu peur de Justin Trudeau.
Ça, ben écoute, si le premier ministre canadien veut se donner bonne conscience et peut-être mieux dormir ce soir, il peut peut-être épouser cette théorie-là, effectivement.
OK. On en a beaucoup parlé la semaine passée parce que des extraits ont circulé. Mais c'est aujourd'hui que le livre Rage de du journaliste d'enquête Bob Woodward, là, qui a fait plusieurs entrevues avec le président Trump, ben, c'est aujourd'hui que ça sort.
C'est aujourd'hui que ça sortait, je l'ai lu, et je peux te dire que, premièrement, il y a beaucoup, beaucoup de matériel qui recoupe ce qui était déjà contenu dans le premier livre de Woodward sur la présidence Trump, le fameux livre Fear, qui était sorti en 2018. Et t'as, en fait, à peu près le premier tiers, au moins le premier tiers, donc, qui parle des premières années du mandat de Donald Trump. Et dans son ensemble, je dirais que c'est un livre qui porte surtout sur la politique étrangère du président, sa gestion des affaires internationales. En bonne partie, ça, je te dirais que c'est ma lecture parce que les sources les plus importantes de Woodward, quand on lit entre les lignes, là, ce sont des gens qui étaient attitrés aux affaires étrangères. On parle beaucoup de Jim Mattis, son ancien secrétaire à la Défense, beaucoup de Rex Tillerson, son ex-secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, et notamment... on parle beaucoup, beaucoup de la question du dossier nord-coréen. On souligne, je dirais, à grands traits, comment, au sein même de l'équipe de conseillers Donald Trump, là, on a réellement craint, la première année de Trump à la Maison-Blanche, une confrontation militaire, voire nucléaire, avec la Corée du Nord. Et, de façon générale, si, je dirais, il y a une chose à retenir de ce livre-là, c'est à quel point ça fait état d'une gestion des affaires nationales américaines qui est carrément déjantée. Tu sais, on a ouvert tantôt en se parlant du gros n'importe quoi qui a géré ou qui a caractérisé la question des tarifs douaniers américains. Je te donne un exemple dans ce livre-là qui a trait à la lutte à l'État islamique. Et ça vient de Jim Mattis, l'ex-secrétaire à la Défense, qui explique que dans les premières années de Donald Trump à la Maison-Blanche, la lutte à l'État islamique, c'était une priorité nationale. Et on dépêche Mattis à Ottawa, en fait, au Canada, pour qu'il rencontre ses homologues, incluant le ministre canadien, d'ailleurs, de la Défense, pour que tout le monde soit sur la même page, reste solidaire avec les Américains en Syrie pour lutter contre l'État islamique. Et Mattis se surprend un peu lui-même en étant capable, assez facilement, en fait, contre toute attente, de faire en sorte que tout le monde, justement, oui, s'entend pour rester uni dans ce combat-là. Rentre à Washington le lendemain, seulement pour apprendre quoi? Mais que son patron, le président des États-Unis, vient de décocher un tweet sans avertir qui que ce soit, qui annonce que les États-Unis se retirent de la Syrie, parce que selon lui, mais la lutte contre l'État islamique, c'est fini. Tu sais, ça donne une idée du style de gestion, et t'as ça du début pratiquement à la fin du livre. Et là, je te donne un exemple avec l'État islamique. T'as ça aussi avec le coronavirus, t'as ça avec la Chine, et donc c'est vraiment ça, c'est qu'on retient le style de gestion de Trump et surtout, toutes les choses absolument abominables qu'ont à dire certains de ses anciens conseillers, certains de ses plus proches anciens conseillers comme M. Mattis, M. Tillerson et également Dan Coats, l'ancien directeur des services de renseignement américains, qui a un rôle assez central dans ce livre-là également.
Mais rappelle-toi, quand il est arrivé, Raphaël, on pensait que les gens autour de lui allaient pouvoir le contrôler. Tous ces gens-là ont fini par partir.
Oui, et en fait, je dirais que c'est une des conclusions les plus importantes du livre. C'est que, à la fois dans le cas de M. Mattis et de M. Tillerson, ils étaient très récalcitrants à accepter l'emploi en premier lieu. Et de ce qu'on comprend, ils ont essentiellement accepté par devoir, par mission patriotique. C'est un petit peu la logique selon laquelle, écoute, ou le raisonnement selon lequel, quand le président des États-Unis appelle, quand le commandant en chef appelle, ben tu réponds à l'appel. Mais au final, leur conclusion, c'est la même. C'est-à-dire que c'est impossible de travailler avec et pour ce type-là. Et écoute ce que Mattis a à dire sur Donald Trump comme déclaration choc, je te dirais sur 400 quelques pages, c'est assez difficile à battre, là, je le cite. « Cette dégradation de l'Amérique est réelle, celle qui est causée selon lui par Donald Trump. C'est tangible. La vérité ne gouverne plus les déclarations de la Maison-Blanche. Personne ne le croit. Personne ne croit le président. Même les personnes qui croient en lui sans croire ce qu'il dit. » quelque chose quand même, là. Ça, c'est son ancien secrétaire à la Défense, un général extrêmement décoré, extrêmement qualifié, extrêmement respecté, qui a ça à dire sur le président des États-Unis.
Donc, sans doute, t'es un membre de l'État profond qui oui. veut ça, renverser ça, Trump, Raphaël. Ça, tu le diras pas, parce que tu fais partie du grand complot.
Je fais des fausses nouvelles, Pat.
Merci, à demain.
À demain.